D'ores et déjà, un immense merci pour cet énorme travail, sincèrement, en mon nom et au nom des autorités de la ville de Genève, à M. le Président du Conseil d'État, cher Antonio, Madame et Monsieur les anciens coprésidentes de la Constituante, qui a rappelé un peu l'aventure, semée d'embûches, les coprésidents de Regard et surtout vous toutes et tous, représentants du monde associatif genevois. C'est un honneur d'accueillir ce moment très important ici au Palais Aynard, qui est le siège de la mairie de la ville de Genève, d'autant plus que c'est un lieu emblématique. Bien sûr, on connaît Jean-Gabriel Aynard, qui est le propriétaire et constructeur de cette maison comme homme de finance, mais aussi un passionné de l'indépendance de la Grèce. Chaque année, d'ailleurs, la communauté grecque vient ici rendre hommage à Jean-Gabriel Aynard pour cette raison, et s'est battu au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de se libérer des tutelles étrangères. Nous ne sommes plus au début du 19e siècle, mais ça reste évidemment fondamental. Et nous venons, et vous êtes bien placés pour le savoir, en décembre de commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme on disait à l'époque, des droits de la personne, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et vous savez probablement aussi qu'une bonne partie du travail s'est fait à Genève, de rédaction, même si l'adoption finale était à New York. Et elle prône l'égalité en tous les êtres humains et programme le droit pour chaque personne de vivre dignement et sans discrimination. Ce qui peut paraître évident, on sait qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et que ce texte lui-même, aussi fondamental soit-il, ne peut pas vivre par lui-même. Parce que ces droits ne sont pas forcément respectés ou même reconnus partout sur la planète. Et ça ne garantit pas une égalité dans les faits. C'est pour cette raison notamment que plus que jamais, nous avons besoin d'un engagement fort, durable dans ce domaine. Encore plus aujourd'hui, on sait que certains de ces droits sont même ouvertement contestés, y compris par les autorités publiques. Pour Genève, la ville de Genève est évidemment capitale mondiale de la paix et des droits humains. La défense des droits fondamentaux constitue réellement une priorité. Dans les faits, partout sur la planète, la population se concentre dans les centres urbains. C'est donc là aussi, dans une structure institutionnelle très proche de la population, que s'expriment le plus fortement aujourd'hui les inégalités et l'exclusion, et le besoin de cohésion sociale est le plus marqué. Encore plus aujourd'hui, début du XXIe siècle, où les États nationaux sont soit déficients, soit glissent vers des tendances clairement réactionnaires pour remettre en question les droits fondamentaux. Et c'est donc souvent les villes qui incarnent, en fait, avec la société civile, la résistance à ces tendances réactionnaires ou aux violations des droits fondamentaux. Et dans d'autres pays, nettement plus difficiles, ce sont souvent des maires ou des élus locaux qui contestent les décisions nationales. Si on prend l'exemple des maires américains face à Trump, ou de certains maires italiens comme à Palerme ailleurs, face au gouvernement fasciste italien, ou même en Pologne et plein d'autres pays. Nous avons donc essayé d'être très concrets dans cette responsabilité, il ne s'agit pas seulement de discours. Dans la mesure du possible, nos politiques publiques traduisent cette volonté de concrétiser les droits fondamentaux au quotidien pour la population dans toute sa diversité. On défend donc une approche dite intersectionnelle qui ne cloisonne pas l'approche par rapport aux différents droits fondamentaux. Cela a été dit que c'est indivisible et interconnecté, que par exemple quelqu'un peut souffrir à la fois de sexisme et d'homophobie ou de racisme. Et les discriminations souvent se cumulent. Une telle approche s'impose aujourd'hui parce que nous devons absolument décloisonner cette lutte pour les droits fondamentaux. Par exemple, lorsqu'on lutte pour des conditions d'hébergement décentes pour des personnes qui sont à la fois réfugiées et d'orientation LGBT, ou encourager une meilleure insertion de femmes migrantes, ou intégrer la question du genre dans la lutte contre le racisme. Ça, c'est parmi d'autres quelques-unes des pistes d'action qui inspirent notre activité. Comme en plus j'ai la chance d'être en charge du département de la culture et du sport, qui sont des domaines, au-delà de leur légitimité intrinsèque, qui sont de formidables leviers de dialogue, d'insertion et de cohésion et d'échange, on les utilise là aussi dans cette optique-là. Ou par exemple, lorsqu'on notre ville est reconnue pour avoir fait preuve d'un travail de pionnier en matière de droits de l'enfance. Donc ces efforts doivent être fournis ensemble, les collectivités publiques, les associations au sens large, la société civile, c'est absolument vital. Ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à avancer, dénoncer les situations de discrimination et trouver des remèdes concrets et durables, réagir aussi aux gens qui malheureusement peuvent prendre des positions négatives face aux droits fondamentaux, rassembler les gens, expliquer, fédérer plutôt que diviser. Et cet article 42, pour terminer, effectivement, il a un caractère pionnier qui pousse à l'évaluation de la Constitution. Moi, qui il y a pas mal de temps, dans une autre vie, faisais partie d'un cabinet d'évaluation de la vie publique, je ne peux que m'en réjouir de cette clause effectivement absolument, pas révolutionnaire, mais en tout cas importante. Effectivement, une clause doit être appliquée. Je vous remercie d'avoir pris l'initiative dans ce sens et de nous offrir votre regard extrêmement enrichissant. Et je me réjouis effectivement d'utiliser ce rapport comme une source d'inspiration pour la suite. Donc encore une fois, un très grand merci.
Monsieur le maire, chers amis, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les anciens constituants, les témoignages évoquent une sacrée épopée pour celles et ceux qui ont vécu cette aventure unique. Hein. C'est rare qu'on fasse une constitution. Je souhaite tout d'abord saluer le travail qui a été fait par le réseau d'associations Regard. Donc, en réalité, on l'a reçu quand même un petit peu avant, vous voyez. Donc, ce qui est bien, parce que ça m'a permis de voir effectivement la qualité, le sérieux du travail qui a été fait, la méthodologie aussi, qui, comme vous l'avez évoqué, reprend celle de l'examen périodique au niveau du Conseil des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies. Et puis ce regard, article par article, droit fondamental par droit fondamental, qui reprend finalement l'essentiel de ce qu'est une constitution, qui est l'énoncé de ces droits-là. Et le mécanisme qu'ont trouvé les constituants, je trouve particulièrement adéquat, parce qu'en réalité, l'État, nous, les collectivités, sommes à la fois la source de l'essentiel de garantie de ces droits et en même temps le risque de la violation de ces droits. Et évidemment, on pense tout d'abord au maintien de l'ordre, au monopole de la violence légitime, comme dit Max Weber, où on détient cette violence de manière monopolistique, et c'est juste, puisqu'il n'y a pas un tiers qui doit pouvoir exercer la violence, et en même temps, le fait de détenir cette violence peut être source de dérapage et donc d'abus du droit automatique. Cet exemple est facile, simple, autour évidemment de la force armée, qu'est la police genevoise, mais en réalité, et ce rapport finalement l'aborde de manière assez naturelle, eh bien, ce risque d'insuffisance de prestations de dérapage, d'abus, c'est plus rare, mais en tout cas celui d'insuffisance de prestations de la part des collectivités publiques est un risque réel. Et l'originalité de cet article 42, c'est que ce regard, finalement, est porté par la société civile. Et on n'est plus dans le duo classique Parlement-Gouvernement, on est finalement dans un trio où la société civile, constituée de son réseau associatif, vient porter son regard supplémentaire. Et je trouve que cela est sain, je trouve que cela est juste, et comme président du Conseil d'État, le gouvernement, je le vois, se soumet très volontiers à cet exercice pour tout simplement nous rendre heureux. Mais ce regard nous permet de passer en vue ces droits fondamentaux. Il met aussi en exergue une évolution, puisque l'on vient de fêter les 70 ans, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Eh bien, déjà, ce premier glissement, c'est que l'article 42 ne parle pas des droits humains, il parle bien des droits fondamentaux. C'est plus large, quand même. Et je ne sais pas quels étaient le débat des constituants à ce sujet, en termes de choix de mots, mais la notion de droits fondamentaux n'est pas, évidemment, ne recoupe pas exactement celle des droits humains. Et même celle, en réalité, des droits humains, et on a ces discussions-là avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, eh bien, a évolué ces 70 dernières années. Évidemment, il y a 70 ans, après la guerre, très focalisé sur les droits individuels et notamment l'intégrité physique des personnes. Mais aujourd'hui, le monde est beaucoup plus complexe. Et la liste de ces droits fondamentaux, qui est reprise, qui est en fait donc les articles de notre Constitution, évoque des droits qui ne sont pas toujours des droits individuels. Et cela nous oblige, d'un point de vue politique, à justement passer dans peut-être une approche plus moderne de ces droits fondamentaux, de ces droits humains. Deux exemples qui, pour moi, sont d'une actualité forte, c'est l'égalité homme-femme, où il ne s'agit pas de juste dire dans la Constitution que les hommes et les femmes sont égaux, alors que dans les faits, en matière salariale, en matière d'accès à différentes prestations, il y a des différences qui sont statistiquement prouvées et sur lesquelles nous devons encore travailler. Et puis, le droit à l'environnement sain, ça a été évoqué, en lien avec aussi le droit à un climat sain. qui sont là aussi des thématiques, vous le constaterez, qu'on ne peut pas individualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la défense des droits fondamentaux, la défense des droits humains, n'est plus devenue une simple défense de droits individuels, mais bien une défense de droits collectifs. Le climat, l'environnement, l'est par essence. Et par conséquent, les mécanismes de défense de ce droit doivent aussi être renforcés, quelque part réinventés et renforcés à mes yeux. Cela est fondamental en lien avec l'énumération de plusieurs des droits qui sont dans ce document. Vous avez la liste à la page 11. Et m'amène à peut-être une dernière réflexion avant d'arriver aux conclusions. C'est qu'un des grands défis, et peut-être on le sent plus quand on est dans un exécutif, c'est que parfois, ces droits s'opposent. Est-ce que la liberté économique est toujours compatible avec l'article 35, est toujours compatible avec l'article 19, droit à l'environnement sain? Est-ce que la garantie de propriété, l'article 34, est toujours compatible avec l'article 38, le droit au logement? C'est normal qu'au niveau d'une constitution, on ne se soit pas posé des questions en ces termes. Mais en matière de mise en œuvre, ça fait partie des arbitrages qui sont aussi ceux de la responsabilité des autorités. Et là, je crois que le regard qui est porté me paraît pertinent et le dialogue que l'on doit avoir là-dessus me semble fondamental parce qu'à vrai dire, je n'ai pas de réponse définitive à ces oppositions qui sont à la marge, qui ne sont pas des oppositions philosophiques ou frontales, mais qui, dans les faits, font que tel ou tel arbitrage politique va plutôt favoriser un droit et parfois au détriment de l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce message de rappeler aussi que l'État de Genève, à travers son budget de la solidarité internationale, a investi en 2018, donc par année, plus de 1,6 million de francs aux associations genevoises actives dans la protection des défenseurs de droits humains, de lutte contre la violence, dans le soutien aux victimes ou encore dans le renforcement des institutions. Les droits humains, les droits fondamentaux n'est pas qu'une problématique dédiée aux pays du tiers-monde, c'est aussi une problématique, et ce rapport le souligne, qui nous concerne, il n'y a pas de différence là-dessus, mais nous importe aussi, comme État peut-être plus riche que la plupart des États de cette planète, de pouvoir contribuer à aussi l'évolution des droits humains ailleurs sur notre planète. Merci encore pour cet excellent travail et je me réjouis d'avoir cet échange dans le cadre de ce rapport. Merci à vous.